spectaculaire reprend enfin, émission numéro 139. Christophe Renaud au micro, c'est la reprise ce mercredi 6 septembre 2017. Reprise enfin après une petite pause estivale de quoi juillet-août, voilà, c'est tout à fait normal, c'est très bien, il faut faire un peu relâche, hein, il faut s'imposer cela. Et donc reprise, et quelle reprise, certes, Isa n'est pas là, Gérald non plus, mais c'est Olivier Sauton qui est là, ou disons... Fabrice Lucchini, comment ça? L'un peut-il être l'autre? L'autre peut-il être l'un? Oui, eh bien, écoutez, nous allons en parler, puisqu'Olivier Sauton est à l'affiche du Comédie Odéon, du théâtre Comédie Odéon, c'est juste à côté, sur la rue Grolet. Il se trouve là-bas ça a commencé hier, mardi 5 septembre, c'est donné jusqu'à vendredi prochain, le 14 septembre, ou le 15, je sais plus, le 15, c'est mieux, c'est plutôt le 15 septembre, et c'est à 21h30, c'est bien, comme ça, ça laisse, on peut faire des choses en première partie de soirée, et la deuxième partie, réservez-la pour Olivier Sauton, vous allez voir, ce spectacle est absolument génial, vous allez entendre plutôt jusqu'à 15h comme tous les mercredis, 14h bientôt 6 minutes, un peu de retard, alors commençons tout de suite, commençons avec Stromae parce que c'est Olivier qui l'a demandé puis parce que c'est très bien. Vous nous écoutez, vous avez tout à fait raison de le faire, hein, sur Radio Canu, c'est à Lyon sur le 102.2 et de manière générale sur internet c'est radiocanu.org.
Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagna. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
on ne fait que parler. Je dis à l'instant à Olivier, et donc ça crée un léger blanc de 2 secondes, mais c'est très bien. C'est très bien parce que voilà, il faut de tout. Qui est Olivier ? Eh bien, il va se présenter. Moi, je rappelle seulement ce que j'ai indiqué en début d'émission. Olivier Sauton est l'auteur ainsi que l'interprète de ce seul en scène, One Man Show, qui s'intitule Fabrice Lucchini et moi. Je ne sais même pas d'ailleurs si j'ai bien donné le titre tout à l'heure en début d'émission. Donc Fabrice Lucchini et moi, ce seul en scène de et avec Olivier Sauton est donné du 5 septembre, c'est-à-dire c'était hier, mais c'est encore mercredi, aujourd'hui c'est encore l'affiche, jusqu'à vendredi de la semaine prochaine, ce sera bien le 15 septembre, et c'est donc à 21h30, et c'est pour, je n'ai pas compté, ça fait presque 10 dates, et c'est très bien ça. Moi je m'arrête là. Et Isa n'est pas là, Gérald non plus, mais Olivier Sauton est bien présent. Donc voilà, je vous lance les premières questions que nos auditeurs ou nos lecteurs du blog connaissent peut-être. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous avez fait, Olivier Sauton, qui vous a amené à ce micro de Radio Canu en ce mercredi après-midi ?
Alors, je suis auteur-interprète, j'écris des spectacles. Et actuellement, donc, j'ai un spectacle, comme vous l'avez fort bien dit, qui s'intitule Fabrice Lucchini et moi. Et c'est un spectacle que j'ai beaucoup joué à Paris, que j'ai joué un peu partout en France. Et cette fois-ci, j'ai la chance de venir le jouer à Lyon, à la Comédie Odéon, à 21h30, toute cette semaine, jusqu'à samedi soir, et la semaine prochaine, jusqu'à vendredi soir. Et c'est comme ça que je me trouve derrière ce délicieux micro.
Oui, mais alors, comment êtes-vous arrivé là ? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre... Alors bon, c'est toujours le truc, hein. Allons-nous remonter jusqu'à la petite enfance ? Bah, je ne sais pas, peut-être pas très
pourquoi
loin.
Pourquoi pas ? Ce sera une séance de psy, c'est très bien.
Quels furent donc vos premiers pas, vos premières rencontres avec plutôt la littérature ?
J'ai eu un rapport un peu conflictuel avec la littérature. C'est que, en fait, ce spectacle aborde de manière divertissante le thème de comment on transmet la culture et à quoi ça sert la culture. C'est deux questions un petit peu bateau qu'on reprend à chaque rentrée pour savoir comment on va éduquer les élèves, etc., etc. Et puis finalement, on tourne toujours en rond. Moi, j'ai voulu intégrer cette réflexion dans un spectacle divertissant parce que quand j'étais jeune, moi, la littérature, je passais complètement à côté. Je ne lisais pas. Alors je lisais les quelques bouquins réglementaires à l'école, mais ça m'intéressait pas des masses la littérature. J'étais trop égocentrique pour pouvoir entrer dans un univers autre que le mien. Mais ça me fascinait quand même. Quand je voyais mon frère, mon père ou d'autres personnes plonger dans les bouquins, comme s'ils étaient absentés du monde et pourtant extrêmement présents dans un rapport au monde, on sentait qu'il se passait des choses à l'intérieur et nous on était un peu exclus de ça.
Et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, enfin hors antenne, c'est que justement il y avait peut-être un plaisir un peu solitaire, enfin qui n'était pas inclusif, mais éventuellement.
Ouais.
Ça peut être rebutant, enfin ça peut être difficile.
Il y a un rapport à la littérature évidemment qui est très personnel. C'est vraiment une activité personnelle. Et moi je suis passé longtemps à côté des livres. Et un jour, j'ai voulu être comédien, non pas par amour pour la littérature, mais vraiment parce que j'étais imbu de moi-même et je voulais devenir une vedette. Je suis tombé sur un prof de théâtre qui s'appelle Jean-Laurent Cochet, qui a été aussi le professeur de théâtre de Fabrice Lucchini, entre autres. Et je suis tombé sur un monsieur qui a révolutionné ma vie. Il m'a appris à lire, il m'a appris à aimer lire, il m'a appris à déchiffrer, à comprendre, à entendre une musique, à entendre un sens, avoir des beautés. Il m'a appris l'art des lettres, la littérature.
Mais comment ? C'est quoi son truc ? Parce que moi, volontiers, je connais des gens que ça pourrait intéresser, comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer
jeunes têtes ? Je crois, il n'y a pas de solution vraiment miracle, mais je crois que déjà, quand on enseigne, moi je suis aussi professeur de théâtre à côté, quand on enseigne, on ne doit jamais oublier la passion qui nous anime vis-à-vis de la matière. La passion est contagieuse, et si on devient un petit peu desséché, parce qu'on est déçu, parce qu'on trouve que les élèves suivent pas vraiment, ou parce qu'on commence à s'ennuyer aussi dans son enseignement, faut vite revenir à la base de la passion, ce qui nous a fait aimer cette matière, pour pouvoir transmettre cet amour. Après, je pense aussi qu'il faut un peu sortir des sentiers battus. C'est que aujourd'hui on a des générations qui sont très branchées internet, smartphone, console, série, et donc le livre souffre évidemment. Le livre réclame du temps, de l'attention, de la concentration, de la curiosité, et tout ça c'est un petit peu difficile pour pour certains jeunes d'aujourd'hui. Et il faut surtout pas leur jeter la pierre, parce que c'est générationnel. C'est générationnel. Donc, ce serait totalement idiot de dire vous êtes idiot, vous passez à côté de quelque chose. Non, ils sont en train de créer des choses que nous on n'avait pas. Mais il faut leur dire voilà, ne passe pas à côté du livre. Le livre, il y a quelque chose dedans. Tu vas peut-être en lire plein avant d'en trouver un qui va te convenir et qui va te révolutionner. Mais le jour où tu en trouves un qui te révolutionne, là, c'est une révolution qui sera inscrite à vie en toi. Ce sera vraiment une avancée. Donc, je crois qu'il faut savoir appâter l'élève. Faut aussi faire des similitudes et des comparaisons avec son époque. Et faut pas le lâcher. Alors, faut pas l'assommer. Mais faut pas le lâcher, faut pas l'assommer dans le gavant de manuel. Dadadadada. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, au lycée. Moi, j'ai même pas un bac français à la base. C'est que j'ai un bac économie. C'est quand j'étais en seconde, j'avais une prof de français dont je tairai le nom évidemment, qui était assommante. Et un soir, elle nous dit, en fin d'après-midi, elle nous dit, on va étudier le bateau ivre de Rimbaud. Et moi, je me dis à l'époque, chouette. Apparemment, de ce que je connais, Rimbaud est un poète torturé, etc. Moi, qui suis un ado torturé, ça va m'intéresser. Et on commence tout de suite avec l'analyse technique du texte, les hémistiches, les acrostiches, les gna 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 gna. Elle nous avait déjà gavé de techniques avec des mots barbares que moi-même, alors que j'écris, je ne veux pas apprendre. Je suis pas un savant de l'écriture, faut que ça reste sensible. Et je m'étais dit à l'époque, mais ça y est, c'est fini, quoi. Tu me donnes plus envie de m'intéresser à Rimbaud.
Elle vous a dégoûté.
Alors que si tu commences à dire à l'élève, Rimbaud, c'est un type extrêmement brillant, c'est un vagabond, c'est une racaille géniale, c'est une racaille cultivée, Rimbaud. C'est quelqu'un qui a tout lu dans la bibliothèque de Charleville et puis qui a fait des fugues. Rimbaud, c'était un superbe hétérosexuel qui parlait très bien dans ses premiers poèmes des femmes et qui va avoir un coup d'âme pour un autre poète qui s'appelle Verlaine. Ils vont avoir une aventure amoureuse, homosexuelle, presque de brigand, exceptionnelle. Ils vont se tirer dessus, ils partent à Londres.
Bruxelles aussi, ouais.
Et c'est là où tu racontes une histoire et tu dis à l'élève, bah voilà, ce qu'on va enseigner, c'est pas des statues. Ce qu'on va enseigner, c'est des parcours et des personnalités incroyables et qui ont su par leur art, que ce soit Van Gogh avec la peinture ou que ce soit Rimbaud avec la poésie, qui par leur art ont su retransmettre une perception de la vie qui est forte et esthétisante. Je pense qu'il faut les accrocher comme ça.
C'est très bien, vous le dites. Enfin disons, c'est Fabrice Lucchini qui le dit. Premier acte, hein, je pense plus ou moins, pour être passionnant, faut d'abord être passionné. Passionne-toi, Olivier. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie, Olivier? Alors après, on va peut-être passer ce passage, puisque nous avons du public. Et oui, ce n'est pas très fréquent, hein, Olivier, on ne l'a pas abordé. Nous avons un public, voilà, nous avons des auditeurs qui parfois se déplacent. Et d'ailleurs, je crois que ce public viendra vous voir, me semble-t-il. Donc on ne va pas trop parler de ces différentes.
Il faut expliquer aux auditeurs, il y a deux bombes qui viennent d'entrer au début de l'interview. Elles écoutent religieusement, etc. C'est très agréable.
J'ai failli dire, écoutez bien les filles, ces propos sont pour vous, et en fait, non. Donc, je me trouve connaître un peu ce public, et je pense qu'il y a un goût pour les livres, un goût pour la littérature. Olivier, encore peut-être d'autres éléments de votre biographie, votre portrait. Vous faites donc école de théâtre, vous dites, et puis c'est avec ce professeur qu'un déclic se produit, vous intéressez aux livres, mais pas encore tout. Hein. Vous m'indiquez tout à l'heure, Sophocle, c'est depuis quoi? 2-3 ans que vous êtes...
Ah oui, moi,
vous découvrez encore.
Oui, je crois que je découvre, je lis lentement, j'aime bien lire 2-3 pages par jour, j'aime bien lire 2-3 livres en même temps, j'aime bien feuilleter.
Oui, mais ça n'a pas donc été toujours comme ça, c'est depuis ce déclic.
Non, c'est depuis ce déclic.
Apparemment, c'est plutôt l'équipe, équipe magazine.
Oui, avant, oui, non, avant le... En fait, vous savez, quand je trouve qu'on peut pas bien lire quand on est un peu trop jeune d'âme et qu'on est un peu trop torturé, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont torturés, mais c'est moins une torture qu'une quête. Donc ils voient dans le livre parfois une solution, un ami, un compagnon, un confident même. Parce que les livres nous disent beaucoup, mais finalement quand on lit un livre, bah on dit beaucoup aussi au livre, on parle beaucoup aussi au livre. Et c'est un... Oui, c'est un compagnon perpétuel. Moi, j'ai toujours un livre sur moi. C'est extrêmement rare quand je n'ai pas de livre sur moi. C'est, même si je sais que je vais lire trois lignes, j'en ai un sur moi.
L'exemplaire que vous avez aujourd'hui est assez, assez stupéfiant, c'est quand même.
Bah, en fait, oui. Alors, je continue à découvrir la littérature. Je lis beaucoup, je lis quasiment exclusivement du théâtre. J'ai lu quelques romans. Je suis pas très roman, je suis pas... C'est pas... Bah, si, bon, il y a des romans qui m'ont époustouflé, mais... Je préfère quand même explorer beaucoup l'univers du théâtre, ouais, quels que soient les auteurs.
N'est-ce pas difficile de lire du théâtre ?
Alors moi, je trouve que non, parce que c'est mon métier et c'est vraiment mon goût. Après, pour un lecteur dont le théâtre n'est pas le métier, oui, peut-être que lire du théâtre, c'est bizarre. Mais moi, quand je lis une pièce de théâtre, c'est ce que je dis à mes élèves au cours de théâtre à Paris, c'est que quand je lis une pièce de théâtre, je lis une série. C'est comme si je regardais Games of Thrones. Quand je lis Shakespeare, je suis à Games of Thrones. Il y a des fantômes, il y a des duels, il y a de l'amour, il y a du sexe, il y a des trahisons. Pendant que je lis Shakespeare, spontanément, en moi, naît une musique incroyable. J'ai l'impression d'être Ennio Morricone. C'est plein de sens qui se mettent. Quand je lis Shakespeare, je vois le château, je vois les destriers magnifiques. Je vois le ciel qui se déchire dans le Roi Lear avec la tempête, etc.
Et là pour Aristophane alors,
Aristophane, j'ai plus de mal.
C'est autre chose.
C'est-à-dire que j'ai découvert donc les Grecs. Je me suis intéressé à eux il y a très peu de temps. Je me suis dit c'est quand même dommage. Tu t'intéresses au théâtre et t'as pas lu les Pères quand même. Et j'ai commencé à lire. D'abord, Médée que j'adore, c'est un mythe que j'adore. Donc j'ai lu par Euripide, puis après dans le chronologique par Sénèque. Et puis je me suis dit tiens, je vais aller voir les Grecs. Et j'ai lu Sophocle et j'ai adoré. J'ai pris une claque incroyable.
Avec lesquels? Antigone, c'est ça, notamment.
Alors Antigone,
Œdipe à Colonne, lesquels? Ouais.
Je préfère Œdipe roi qu'Œdipe à Colonne. Et j'aime beaucoup aussi les Trachiniennes. Je trouve qu'il y a un rôle féminin qui est incroyable. Je crois qu'elle s'appelle Déjazir, je crois. Et c'est l'archétype, enfin plus que l'archétype d'ailleurs. C'est la base du personnage femme qui commence à vieillir. Son mari est parti. Je crois que c'est... Hercule, je crois, mais je dis peut-être une bêtise. Et en fait, elle est cocue par une petite jeune, parce que l'autre, il fait pas que la guerre, quoi. Et je trouve ça d'une modernité, mais incroyable. Et je trouve que c'est un portrait d'une femme amoureuse qui commence un petit peu à vieillir, ce qui est très difficile pour une femme en toute époque. Et c'est pour ça aussi que la littérature est bien, c'est qu'on voit qu'en fait, l'homme ne change pas. Les époques changent, le décor change, mais l'homme profondément ne pense pas. On en revient toujours au même problème, l'amour, la mort, le pouvoir, la trahison, la quête de soi et
l'argent.
Du monde. Ouais. L'argent. Ouais. On en revient toujours au même. Je suis moins fan d'Aristophane. Je trouve que c'est comme Plaute, même si Plaute est un romain, mais je trouve que la comédie vieillit mal, parce qu'il y a beaucoup de... Mais c'est valable aussi aujourd'hui. Il y a beaucoup de... En comédie, il y a beaucoup d'allusions temporelles à des faits de société qui se passent. C'est comme si vous faites aujourd'hui une blague sur Ribéry. Bon, votre blague sur Ribéry, dans 550 ans, elle va pas tenir, quoi. Elle va pas tenir. Je trouve que dans les comédies un petit peu comme ça, il y a trop d'allusions, et je trouve que ça a moins de portée, en fait. Donc j'aime beaucoup la tragédie grecque, ouais.
Stromae. Sera-t-il universel? Il faut quand même raccrocher un peu les wagons. C'est ce qu'on a écouté en début d'émission. Je ne sais même pas si on l'a dit aux auditeurs que c'était bien sûr Stromae, tous les mêmes que nous avions commencé. Brassens dans quelques instants. Pourquoi ces deux figures? Pourquoi Stromae? Pourquoi Brassens?
Très différent. j'ai appris, ça fait un peu pédant, mais j'ai appris par des Belges que normalement, initialement, on ne dit pas Stromae, oui. On dit Stromae. Oui. Bon, peu importe. Stromae, ça a été une claque pour moi, c'est que j'étais en situation d'échec, ma carrière décollait pas, j'étais pas très content des spectacles que j'avais produits, je me cherchais. Avant Lucchini et moi, j'avais pas trouvé ma plume, j'avais pas trouvé ma cohérence, j'avais pas trouvé ma ligne. Et j'étais assez pessimiste, je faisais des spectacles pour dire qu'est-ce que le monde va mal, qu'est-ce qu'on est bête, qu'est-ce qu'on est bête, c'est incroyable qu'on... Et ce type-là est arrivé comme une lumière. Et il m'a foutu une claque artistique Il envoyait des vibrations exceptionnelles avec un talent sublime, avec une fraîcheur incroyable. Chaque apparition télé, c'était un événement. Il faisait quelque chose d'artistique. C'est quand même le seul type, Stromae, quand il est à la victoire de la musique, alors qu'on enchaîne les groupes qui font plus de bruit, plus de bruit, plus de bruit. Lui, il dit chut, on fait un silence total et il fait un truc a cappella. Ça, je trouve ça classe. Je me dis, bah voilà, la victoire de la musique, c'est aussi la victoire d'un certain silence. Et il n'y a qu'un artiste génial qui, au lieu de se précipiter dans la fosse et qui fait allez, allez, du bruit, allez, allez, allez. Non, le bruit, c'est pas la musique. Enfin, plutôt la musique, c'est pas le bruit. Lui, il arrive, il fait non, non, s'il vous plaît, on va pas chanter. Je voudrais juste de bien écouter. Et il fait un truc génial. Ça, c'est pour moi un grand artiste. Brassens, c'est parce que quand j'étais jeune, j'avais un cousin qui m'a obligé à écouter Brassens. Je détestais ça. Mon cousin m'a dit si tu vas, il m'expliquait tous les textes, il me saoulait. Moi, ce mec avec cette pipe et cette moustache m'intéressait pas du tout. J'avais 12 ans. Et ben aujourd'hui, je remercie mon cousin parce qu'il m'a initié. Parfois aussi, il faut quand même insister hein, dans l'éducation. Il m'a permis de découvrir un très grand poète, un sublime poète, un troubadour. Brassens, c'est un style exceptionnel, c'est un fond intelligent, bienveillant, sans jamais être niais, mielleux, humanitaire comme aujourd'hui. C'est bien au-delà de l'humanitaire, Brassens. Brassens, c'est l'humain. Il a pas besoin du terre. C'est l'humain. Et c'est une leçon quand on veut écrire.
On va l'écouter, le bistrot parisien, je retrouve seulement, je crois que c'est l'acte 2, moi j'aime bien diviser un peu votre, je ne savais même pas que c'était publié, auditeur, le texte, Fabrice Lucchini et moi d'Olivier Sauton, est publié chez L'Arche, c'est bien précisé, c'est à l'intérieur ou je ne sais plus quel endroit, éditeur indépendant, c'est bien.
C'est une très bonne maison d'édition, je suis très fier d'être chez eux, c'est une vraie maison de théâtre à Paris, ils ont dans leur catalogue des gens comme, Brecht, comme etc.,
et puis des actuels, des modernes, des contemporains, des anglais.
Oui, bien sûr, beaucoup d'anglais, des allemands. Il y a aussi Fabrice Melchiot, qui est un auteur suisse qui a beaucoup de succès. Et en fait, ils étaient venus voir le spectacle. Et non, ils n'étaient pas venus voir le spectacle. C'est mon ancien producteur qui leur avait envoyé le texte. Ils avaient eu un coup de cœur pour le texte. Ils sont venus voir le spectacle et ils l'ont dit, là, on l'édite.
Quand on connaît pas. Ah oui, c'est vrai, c'est un passage où Lucchini se met à parler un peu. Lucchini qui fait le jeune, c'est toujours compliqué. Hein. Là, ça fait une sorte de.
Bah, en fait, faut comprendre que le. Quand faut bien que les auditeurs pas, comprennent pas. Que je fais les deux personnages.
Ouais, ça, c'est. Vous allez le dire dans quelques instants.
Je joue le petit 20 ans et je joue Fabrice Lucchini qui est là, Radio Canu. On est bien avec Christophe. Deux filles là, c'est on n'est pas chez Hanouna, tu vois, elles sont pas hystériques, elles vont pas applaudir toutes les 20 secondes. Non, elles sont là, elles sont dans l'écoute, elles se disent tiens, c'est intéressant ce qu'il dit. Si son spectacle est aussi intéressant, on va passer un bon moment. Et je le dis, moi, Fabrice Lucchini, il faut aller voir Fabrice Lucchini et moi, Comédie Odéon, 21h30, carton total. Faut pas se cacher, faut pas faire les modestes. Il y a un vrai truc qui se passe.
Oui, oui.
Ça, c'est devant Neymar, quoi. Tu vois, c'est Neymar à côté. Bon, voilà, c'est de l'argent, mais c'est tout.
Quand on connaît pas, on parle pas. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, enfin du moins, au sujet de l'intelligence aussi. Enfin, je sais plus. Je mélange absolument tout. Alors, vous savez quoi? Comme d'habitude, je me tais, je laisse Brassens parler. Et nous continuons jusqu'à 15h. Vous avez tout dit à l'instant, Olivier Sauton. Alors, eh bien, laissons Brassens et puis c'est tout.
Encore une autre, merci.
Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin de première classe, va boire à Passy, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier m'a de lasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourde menace. Tu trouveras là la fine fleur de la peau. Populace, tous les marmiteux, les calamiteux de la place, qui viennent t'en rang comme des harengs, voir en face la belle du bistrot, la femme à ce gros dégueulasse, que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines. va là à ceux. Si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce de cette jolie fée qui d'un bouge a fait un palace avec ses appâts du haut jusqu'en bas bien en place. Ces trésors exquis qui les embrassent, qui les enlace. Vraiment c'en est trop, tout ça pousse gros des gueulasses. C'est injuste et fou, mais que voulez-vous qu'on n'y fasse. L'amour se fait vieux, il a plus les yeux bien en face. Si tu fais ta cour, tâche que tes discours ne l'agacent. Sois poli mon gars, pas de geste ou gara la casse. Car sa main qui claque, punie d'un flic flac, les audaces. Certes il n'est pas né qui mettra le nez dans sa tasse. Pas né le chanceux qui dégèlera ce bloc de glace. Qui fera dans le dos les cornasses gros des gueulasses. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée, un vieux bouge à fée, un palace.
Bravo, maître! Permettez-moi.
Je ne sais pas comment ça se termine, ce morceau. De toute façon, je ne l'ai même pas écouté, zut. Pourtant, le bistrot parisien de Brassens, promis, Olivier, je le réécouterai. Enfin, disons, jeudi, Olivier, voilà, nous basculons dans le deuxième temps d'émission.
C'est une très grande chanson.
Ah, donc voilà, vous êtes bien Olivier, qui incarnait Fabrice Luchini dans le spectacle Fabrice Luchini et moi, donné aux comédies. C'est quoi? C'est le théâtre Comédie Odéon?
Comédie Odéon.
Au 6 de la rue Grolet. Il y a un site internet qui est assez facile, hein. C'est comme Radio Canus, c'est-à-dire c'est Comédie Odéon tout accroché, il n'y a pas d'accent.com. Et les dates, c'est ça qui prime, c'est donné encore de ce mercredi aujourd'hui 6 septembre jusqu'au ça fait 10 jours jusqu'au samedi non jusqu'au vendredi 15. Il y a une à la fois cette semaine c'est jusqu'au samedi et la semaine prochaine ce ne sera que jusqu'au vendredi 21h30 et c'est très bien. Oui, non, que pourriez-vous en dire?
Oh bah je vais être très objectif.
Vous avez raison, soyez-le donc.
Moi j'ai voulu créer un spectacle. J'ai voulu créer un spectacle, donc pour les auditeurs comprennent bien, je joue les deux personnages. Je joue un jeune de 20 ans qui rêve de devenir une vedette, mais qui est totalement inculte. Ça ne veut pas dire qu'il est bête, mais il est inculte.
Et c'est vous, enfin disons, il s'appelle Olivier Sauton.
Je le fais appeler Olivier Sauton.
Est-ce vraiment vous?
Oui, moi j'étais... j'exagère un peu, je force un peu le trait pour que ce soit un peu plus spectaculaire. Mais oui, moi j'étais comme ça. C'est-à-dire que les vrais premiers livres que j'ai lus, j'avais 20 ans. J'étais extrêmement égocentrique, imbu de moi-même. J'étais persuadé d'être ingénieur alors que j'avais rien fait. Ce qui est très pratique d'ailleurs, très commode. J'étais obsédé, omnibulé par le sexe féminin qui me hantait. Donc j'étais pas du tout dans la culture, les livres, etc. Ça m'intéressait pas du tout. Et je me suis dit un jour, raconte ton parcours en le romançant pour qu'il soit plus intéressant. Raconte le parcours d'un type, parce que je veux en fait, l'ambition avec ce spectacle, c'est dire aux gens qui sont passés à côté des livres, bah d'une, il n'est pas trop tard, et de deux, c'est pas lourd, quoi. Alors, c'est bien d'être initié, d'avoir quelqu'un quand même qui vous accompagne, parce que quelqu'un parfois qui vous accompagne peut être juste la curiosité, hein, pas forcément une entité physique. Mais ça va être un peu difficile au début, mais il y a tant de choses à voir dans les livres. En gros, c'est pour dire aux jeunes surtout, c'est pas parce que tu t'es ennuyé en cours de français que tu vas t'ennuyer plus tard avec la littérature. Moi, en cours de français, très souvent, selon le professeur d'ailleurs, bah, je m'ennuyais. Alors, j'aimais bien la langue française, mais j'aimais pas la littérature. J'aimais bien manier la langue, essayer de fabriquer des choses, mais comprendre la fabrication d'autres, j'étais assez imperméable. Et je me suis dit, je vais mettre Fabrice Luchini, qui va lui donner des cours de théâtre à ce petit jeune homme. Ils se sont rencontrés par hasard. Et je vais jouer les deux personnages.
Ça, c'est vrai, ça, c'est authentique.
Ça, c'est authentique. C'est quoi. J'ai vraiment rencontré Fabrice Luchini, j'avais 20 ans. Ça faisait quelques mois que j'étais à Paris. Et je tombe vraiment sur lui à 3h du mat' en pleine rue. Et je me précipite sur lui. Aujourd'hui, j'oserais plus du tout. Mais bon, quand t'as 20 ans, t'es un peu impétueux. Et je vais le voir et je lui demande de lire une fable de La Fontaine. Et il me regarde avec sa tête. Et il me fait, tu veux, tu Tu veux que je te dise une fable de La Fontaine? Non mais c'est totalement hallucinant. Non mais tu sais ce que ça représente, La Fontaine? La Fontaine, c'est le fabuleux fabuliste. C'est un moraliste jamais moralisateur. La Fontaine, c'est le drame humain. Pourquoi je m'énerve? La Fontaine, c'est le drame humain à travers la comédie animale. Il était inarrêtable. Et il m'a fait une fable comme ça, à 3h du mat. Il était en train de répéter un Louis Jouvet. Écoute mon ami, qu'il allait jouer au théâtre quelques mois après. Et on a passé une demi-heure ensemble. Et quand on s'est quitté, je me suis dit, waouh, là je viens de vivre un truc incroyable. Et pendant des années, j'en ai fait un petit sketch. J'avais un one-man show. Au départ, j'étais vraiment stricto sensu comique, humoriste. Et j'en faisais un sketch. Et les gens me disaient après mon spectacle, oh, il est bien votre spectacle. Oh, dis donc, votre sketch sur le kiné, qu'est-ce qu'il est bien. Et un jour, je me suis dit, bah, je vais en faire tout un spectacle. Et je vais pas me limiter à un sketch. Je vais aller dans des palettes d'émotions différentes, que ce soit un spectacle drôle, parfois émouvant, réfléchi, poétique, etc.
Oui, vous avez commencé d'ailleurs à, j'ai posé la question il y a quelques instants, et vous avez commencé sur ça. En fait, la première chose que vous m'avez dite quand je vous ai demandé qu'était ce spectacle, vous n'avez pas vraiment parlé de Fabrice Luchini, vous avez plutôt parlé d'un rapport à la littérature, à la culture.
Oui, parce que Luchini est un prétexte. Luchini est un prétexte et Luchini est un appât. Luchini, c'est un personnage qui est déjà en soi est extrêmement théâtral. C'est-à-dire que si vous réussissez à le jouer, il y a un personnage absolument fascinant. Il prend la place, il parle très fort mais sans gueuler. Il est absolument spirituel. Il y a une sorte d'hypnose vocale qui se crée quand il parle. Il va être parfois un peu grivois, mais on va l'excuser. Il va être très cultivé, il va donner envie de lire. Et c'est un type, tu vois, il met vraiment en application la phrase de Marguerite Duras. Les femmes jouissent d'abord par l'oreille. C'est une partouze vocale, Luchini, absolument fantastique. C'est très élégant.
Mais comment vous faites ça d'ailleurs? Moi, je me suis posé la question, c'est quoi? C'est des heures et des heures de visionnage de vidéos et de mise en bouche.
Oui, pour travailler le personnage de Luchini, j'ai abattu un travail considérable, mais au départ d'ailleurs, sans vraiment me rendre compte que c'était un travail. Fabrice Luchini, j'ai commencé à l'imiter quand j'avais, je vais avoir 20 ans, 21 ans. En fait, quand notre prof de théâtre Cochet nous donnait des textes, j'ai eu le même professeur de théâtre que Luchini, pas aux mêmes années évidemment, mais j'ai eu le même professeur de théâtre, Jean-Laurent Cochet, qui est un immense maître. Et en fait, quand il nous donnait des textes classiques, moi les textes classiques, je comprenais rien du tout, ça m'intéressait pas, je me voyais pas à Cannes avec une palme d'or parce que je savais jouer La Fontaine. Donc, bon, je le faisais parce qu'il fallait le faire, mais franchement... Et il m'avait donné une fable qui s'intitule La tortue et les deux canards. Et donc, je la travaille chez moi, et le début, ça fait « Une tortue était à la tête légère qu'il... » Et je me dis « Oh là, il se passe rien quand je la dis... » Et à un moment, je me suis dit « Tiens, comment Luchini, qui est mon acteur préféré, comment Luchini la jouerait ?» Une tortue était... à la tête légère. Et là, je me suis dit, waouh! Il vient de me faire remarquer que dans les deux vers, il y avait quatre ou cinq fois la sonorité en T, et que cette sonorité en T, il fallait les réaccentuer pour que ton vers ait du relief. Une tortue était à la tête. Waouh! Alors que si tu réaccentues pas les T, c'est que technique. Si tu réaccentues pas les T, ça va s'annihiler. Quoi? C'est moche. Une tortue était à la... Et à partir de là, dans mon travail, je me suis toujours inspiré de lui. C'est-à-dire que j'ai toujours imaginé qu'il devait jouer les textes qu'on me donnait. Et ça me permettait, en fait, de voir les beautés de la partition. C'est comme si j'empruntais un Stradivarius et que je comprenais à saisir les beautés, les grandeurs de la partition que j'avais sous les yeux. Parce que moi, avec mon pauvre petit instrument, La Fontaine, je voyais pas les beautés. Avec l'instrument Luchini, je me dis, c'est vrai que c'est génial. C'est une langue géniale. Et à force d'emprunter son instrument, j'ai pu construire le mien. Après, quand je jouais sur scène et que je proposais les fables et les scènes devant mon professeur, j'imitais pas Luchini. Je restais Olivier Sauton, mais imprégné d'un travail de Fabrice Luchini.
Et pourquoi?
Parce que c'est le meilleur.
Et pourquoi? Enfin, du moins, comment?
Pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur professeur de français de ce pays. C'est-à-dire que quand on l'écoute...
Il n'enseigne pas, lui. Hein, il n'a pas de...
Bien sûr que non. Mais c'est une image. C'est que quand vous l'écoutez en promo, il donne envie de lire, il donne envie de culture. La culture, très souvent, c'est plombant. Je veux dire, t'écoutes, pourtant, ce sont d'excellentes radios, mais t'écoutes France Inter, France Culture, il y a qu'un mec sous Prozac qui peut vraiment prendre son pied en écoutant ça, en disant, oui, c'est vrai, je vais lire le dernier livre, là, qui vient de parler. Fantastique, un homme qui change de sexe, c'est super. Il y a un nouveau livre qui vient de sortir, un Libanais, son père était russe. Et bon, tout ça est très bien, c'est pas du tout un jugement de valeur.
Un peu caricatural, mais bon.
Bien sûr, il faut être caricatural pour être drôle. Mais c'est... Bon, lui, quand il parle de culture, il allume la curiosité. T'as l'impression qu'il rend accessible sans jamais dévoyer l'œuvre. C'est là où c'est un professeur de français extraordinaire. C'est qu'il va t'intéresser, il va réussir à t'intéresser à des choses. Si tu te plantes devant un mec et tu lui dis, attends, je vais te parler d'un truc fascinant, c'est La Fontaine, Valérie et Barthes. Normalement, le type, il se tire. Hein. Il se dit, non, merci, j'ai autre chose à faire. Moi, dans ma vie, je vais bien, merci, au revoir.
Et pourtant, c'est l'affiche, c'est ça des...
Et c'est ça. Et alors que lui, il réussit... avec une diction absolument particulière, une gourmandise qui dure depuis plus de 45 ans. C'est même plus une gourmandise, c'est une obsession.
Et il le dit dans votre spectacle, hein, vous le lui faites dire, CAP coiffure. Robert Lucas.
Oui, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Et c'est aussi pour ça que je l'ai pris en tant que personnage, c'est que non seulement c'est un personnage déjà en lui-même extrêmement théâtral, mais en plus il incarne justement cette, même si c'est quelque chose dont il n'aime pas trop parler, il n'aime pas trop mettre en avant ça, mais il incarne un certain type d'autodidacte. Tout ça pour revenir au sujet que c'est pas parce que t'as pas été bon à l'école, c'est pas parce que tu n'as pas été intéressé en cours de français que les livres, c'est fini pour toi. Pas du tout. Les livres, faut les voir. Ça fait toujours un peu bête de dire ça comme ça, mais parce que quand les gens qui lisent savent que c'est vrai, et les gens qui lisent pas disent oui, c'est toujours le même discours, ils nous font chier. Mais les livres, c'est une friandise. C'est tout un univers. Ça transporte. Faut juste, faut y aller, faut pas avoir peur de tomber sur des livres qu'on comprend pas, faut pas avoir peur de pas comprendre un livre, c'est pas grave de pas comprendre. Comprendre qu'on ne comprend pas, c'est déjà comprendre et c'est déjà progresser. C'est juste rendre sexy. Sans en faire une prostituée, rendre sexy la culture, rendre sexy la littérature. À une époque ultra politisée, ultra sociétale, totalement divisée, bête, je trouve, intellectuellement, je trouve que le puits de la culture, des auteurs, de l'art, est mésestimé. C'est que ça peut apporter vraiment quelque chose. Moi, je sais que la culture, elle m'a permis de m'affranchir, d'être plus indépendant, d'être plus profond et d'être plus léger et joyeux.
Je vous crois, mais vous dites ça avec un ton là un peu peut-être un peu grave, mais enfin.
Quand voilà, je suis très heureux, je suis très grave. À chaque fois que j'ai une, non mais c'est vrai, on me fait toujours réflexion. À chaque fois qu'on m'annonce une ultra bonne nouvelle, j'ai une tête totalement déconfite. C'est que j'ai tellement pas aimé la vie pendant des années. J'ai tellement pas été heureux, etc. Qu'aujourd'hui, quand j'apprends une bonne nouvelle, j'ai toujours peur que ça s'arrête. J'ai toujours peur qu'il y ait un problème. Donc, je me méfie toujours de la bonne nouvelle en me disant, c'est peut-être fugace. Et puis, je crois que le bonheur, il y a beaucoup de gravité dans le bonheur et non pas de la niaiserie comme on voit très souvent dans des émissions où on met des chauffeurs de salle qui font applaudir le public tous les 20 secondes, qui font rire à n'importe quoi. Je pense que le bonheur n'est pas forcément un rire de hyène. Le bonheur, ça peut être une contemplation assez grave. Grave veut pas dire triste ni dramatique.
J'opine du chef. La Radio Canu, notre émission n'est pas filmée, hein, de plus en plus, je crois. BFM TV, même France Inter, je crois, ou Europe 1, enfin, tous filment. Nous, on ne filme pas, donc on ne peut pas nous voir, c'est dommage. Et d'ailleurs, si vous souhaitez voir Olivier Sauton, n'oubliez pas, c'est bien à la Comédie Odéon, ou alors peut-être, auditeur, pourriez-vous vouloir passer maintenant, nous rejoindre à côté de la place Satonnet. Je ne vois même plus sur quelle question encore vous lancer. Si, peut-être l'écriture de ce texte. Vous étiez un peu dessus tout à l'heure, puis après, je crois qu'on est davantage parti sur le personnage de Lucchini. Donc, vous disiez que vous avez voulu composer, enfin faire quelque chose, un texte, une réflexion sur la question de le rapport à la culture et à la littérature. Vous êtes d'ailleurs retombé sur vos pattes, vous en avez reparlé à l'instant. Mais pour ce qui est de la dramaturgie, parce qu'attention, hein, auditeur, nous le sommes dit tout à l'heure, voilà, toujours un peu difficile. Vous me l'avez indiqué tout à l'heure que ça peut sembler comme ça depuis que nous en parlons, ça peut sembler peut-être un peu rude, une conversation pendant une heure et demie, entendre Lucchini qui pérore et tout ça. Eh bien non, il y a des cliffhangers, c'est ça, dans les séries américaines. Il y a un peu, vous l'avez vu là, la saison 7
C'est pas du tout un jugement de valeur, c'est que je n'arrive pas. Il y a des séries qui doivent être, j'en suis persuadé, exceptionnelles, avec beaucoup de qualité artistique, mais je n'arrive pas à me passionner pour ce format. Je n'arrive pas à manger un épisode, puis après manger un autre épisode. Même le cinéma, j'ai du mal. Moi, j'aime bien m'arrêter. J'aime bien regarder un tableau, puis me détourner de lui, puis revenir une heure et demie après pour le revoir à nouveau. J'aime bien arrêter, suspendre la lecture d'un livre, suspendre une phrase. Clac, je marche dans les rues de Lyon, ensoleillé, tout va très bien. Les Lyonnaises sont très jolies, ce qui ne gâche rien. J'ai la tête dans mon Aristophane, qui me transporte pas des masses, faut être honnête.
Ah, trop daté, trop 5e siècle Jésus-Christ, ouais.
Et puis je vais m'arrêter sur une phrase, et puis je vais lever le nez, et puis je vais m'arrêter de lire pendant 25 minutes, 30 minutes. Quand je regarde un film, c'est pareil, j'aime bien mettre pause. Donc on peut pas regarder des films avec moi, c'est très chiant. J'aime bien regarder un film sur plusieurs jours, ce qui est insupportable pour beaucoup de gens. Donc non, les séries, je connais pas. En revanche, dans l'écriture de mon spectacle, ce que je voulais, c'est qu'effectivement, il y ait des rebondissements. Faut pas que ce soit. Je crois pas aux vertus de la dissertation au théâtre. Le théâtre doit rester une histoire où il se passe des choses auxquelles on s'attend pas ou s'attend plus ou moins. Où il y a une évolution des personnages parce qu'il y a une évolution de ce qui arrive, une évolution de la situation. Donc ce petit jeune homme va passer par plein d'étapes. Il va passer d'abord par le rejet, il va rien comprendre, il va croire que Lucchini en fait trop, que la littérature c'est pas si bien que ça, etc. Après il va plutôt se confier, il va dire bah oui, c'est vrai que voilà, si j'ose aussi pas m'intéresser à la culture, c'est que j'ai peur d'avoir le sentiment d'être con. Parce que quand je comprends pas un truc et il y a des gens qui comprennent, bah c'est un peu vexant quoi, je suis un peu con quoi. Moi j'ai eu plein de fois ce sentiment là quand j'étais au cours Jean-Laurent Cochet, j'entendais des fables, je comprenais rien du tout. Mais rien du tout. J'entendais le début d'une fable. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vient de comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur, je remettrai remède à la chose. Quoi ? Moi, la première année, j'entends ça, je suis le seul à pas comprendre, quoi.
Voir la toute première, hein, une cigale ayant chanté tout l'été.
C'est ça, ouais, c'est ça. En plus, quand on attaque les grands textes, on s'aperçoit qu'il y a une vraie profondeur, il y a un vrai sens. Un sens qui est finalement assez simple, hein. Les grands auteurs, c'est pas si sophistiqué. Pour moi, le génie, c'est la simplicité et l'évidence. Le génie, c'est ce qui devait être et ce qu'une personne a réussi à restituer. Mais ça devait être. Quand vous fredonnez du Mozart, ça doit être. Ça devait être. C'est très simple, c'est évident.
Combien de CD déjà, Mozart ?
C'est 179. L'intégrale de Mozart, c'est 179 CD. Il est mort à 36 ans.
Et le nombre de fables de La Fontaine ?
243.
Très bien. Ce sont des chiffres qui sont prononcés pendant le spectacle. Donc, vous disiez, il y a des moments de dramaturgie. Moi, c'est ce que je nommais de ça.
Oui, dans l'écriture, il faut savoir faire rebondir. Il faut savoir captiver le spectateur. C'est-à-dire que Fabrice Lucchini, avec sa verve, va parler de choses dont il aime bien parler, la littérature, un peu de politique, pas politique, droite, gauche, un tel, ça on s'en fout, c'est totalement temporel. Les hommes dont on parle aujourd'hui, on n'en parlera plus demain, donc ça n'a pas vraiment de sens. Non, il va parler de la cité, presque au sens grec, de l'organisation, tout ça. Mais avec la verve de Lucchini, avec son amour aussi de la langue, ce qui fait que ça devient intéressant. Lui-même est un instrument qui crée une musique. Il est instrumentiste et compositeur. Et le génie de Fabrice Lucchini, c'est que quand il va prendre des textes comme La Fontaine, etc., 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 on ne sait plus si c'est vraiment La Fontaine ou si c'est Lucchini qui parle. C'est ça qui est très fort. Des fois, Lucchini va citer des gens, on ne sait même pas qu'il est en train de citer, on croit que c'est lui qui parle. Son instrument est tellement accordé, ça c'est quand même un maître acteur. Moi je voulais aussi créer un spectacle pour avoir le plaisir d'incarner un maître acteur. Moi, je suis pas un maître acteur. J'essaie d'être un maître acteur. Je travaille, etc. Le chemin est très très long. Mais quand vous empruntez la voix, la signature vocale et le physique de Fabrice Luchini, c'est magnifique à jouer. C'est délicieux à jouer. Vous vous sentez transporté.
Il y a des phrases formidables. Hein. Je suis en train d'essayer d'en retrouver une. Mais je ne l'ai plus justement. D'ailleurs, j'ai perdu l'idée, mais j'en trouve une autre. Travaille comme tu t'amuses. Travaille comme tu t'amuses. Je cherchais moi une autre phrase. Il y a certaines répliques.
Oui,
elles sont géniales. Comment vous les avez ciselées? Il y a quelque chose qui est assez stupéfiant.
Alors déjà, je prends mon temps pour écrire. Avant d'être comédien, je voulais être auteur. Très tôt, j'ai voulu être auteur. Très tôt, j'ai écrit avec la conscience qu'il fallait trouver une musique. Que j'ai commencé à écrire à 12-13 ans avec la conscience qu'il y avait une cadence, un rythme à trouver. Alors j'écrivais très mal, comme un gamin de 12-13 ans. Mais j'écrivais pas que pour me défouler. J'écrivais pour me défouler évidemment, mais pas que. J'avais conscience qu'il y avait un truc à trouver dans la cadence, dans la musique. Il y avait une signature à trouver. Donc l'écriture, j'ai l'habitude de, j'adore ça. Je pourrais jamais m'en passer. Quand j'ai écrit Fabrice Luchini et moi, je voulais écrire un livre qui, lorsque les gens écoutent la pièce, se disent oh, cette phrase-là, j'aimerais bien la retenir parce que j'aimerais bien la dire à mes enfants ou à mes élèves. Oh, cette phrase-là, elle est incroyable. Et donc, dans le livre, il y a pas mal d'aphorismes. Après, il fallait pas que ce soit une suite d'aphorismes, parce que sinon, c'est du surant. Enfin, toute proportion gardée, évidemment, mais c'est du surant. Et c'est pas, non, il faut que ce soit un objet théâtral. Donc, j'ai essayé de mêler des dialogues, parfois un petit peu graveleux, parfois un peu jeune, etc., etc., très décontractés, parfois beaucoup plus graves, et parfois avec un aphorisme, une phrase, qui, je l'espère, va avoir un retentissement chez l'auditeur, et je veux transformer l'auditeur en lecteur. C'est-à-dire que j'aime beaucoup quand les gens achètent la pièce à la fin du spectacle. C'est quelque chose qui me flatte de savoir qu'ils vont remettre le nez dedans, et cette fois-ci, ils vont plus m'écouter, ils vont me lire.
Ouais, mais moi, je n'arrive plus à retrouver cette phrase qui est justement, c'est un peu ce que vous disiez, hein, juste un peu avant, sur dire les chefs-d'œuvre. C'est encore mieux que les écouter.
Ouais, c'est Fabrice Luchini à un moment qui dit et surtout ne me remercie pas parce que tu sais dire des chefs-d'œuvre. C'est encore mieux que de les écouter. Et là évidemment chez le petit jeune, ça va encore plus déclencher l'envie d'apprendre
ces phrases,
à dire.
Elles viennent d'où ces phrases? C'est incroyable. Comment vous avez écrit ces choses-là? Moi, je suis vraiment très admiratif.
Je me suis pas mal inspiré de phrases que je sors pendant mes cours de théâtre. Mes élèves se marrent parfois parce que je sors une phrase et je leur dis « Attendez ». Et je note la phrase qui est totalement narcissique. Je note la phrase, je m'autocite, c'est incroyable. Je note la phrase que je viens de dire. Et je sais que je la mettrai dans un spectacle.
Et là, ces phrases-là, c'est Luchini qui les a dites dans des interviews, ou alors c'est
non,
vraiment
justement.
Des choses qu'il pourrait avoir dites.
C'est ça, l'illusion. Ce que je voulais absolument, c'est que les gens aient l'impression que j'ai tout piqué dans des interviews, alors que je n'ai absolument, je les ai toutes vues, toutes lues. Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup en tout cas. J'ai absolument rien piqué. J'aurais d'ailleurs pas pu éditer chez un véritable éditeur des extraits d'interviews en me les attribuant à moi-même. Je n'ai pas non plus pris un dictionnaire des synonymes pour remplacer tel ou tel ou tel mot. De toute façon, avec Luchini, on ne peut pas utiliser un dictionnaire des synonymes tellement il y a une part musicale dans le choix de ces mots. En revanche, j'ai voulu faire un travail sur le personnage pour pouvoir exactement penser comme lui. Si je peux penser comme lui, je peux le faire parler. Vous me donnez n'importe quel mot. Je peux vous faire 20 minutes sur... vous me donnez, je sais pas quoi comme mot, vous me donnez... Lyon. Lyon, magnifique cité des Gaules. Meuf absolument bien gaulée, hein, c'est important. Le soleil est encore là. On est un peu dans le sud, mais il n'y a pas la vulgarité du sud. Tu vois, il y a quand même une élégance du nord, là. Tout Marseille va nous détester. Lyon, bah Saint-Ex, évidemment. Saint-Exupéry, le petit prince. Bien au-delà du conte, c'est une fable, c'est pas pour les enfants, faut le dire aux enfants, mais c'est pour les adultes. C'est pour celui qui lit, pas pour celui qui écoute, le petit prince. Et puis c'est un héritage, c'est parce que tu l'as entendu et qu'on te l'a lu que, à ton tour, cité de Guignol, évidemment, Guignol, l'ancêtre du théâtre. Moi, je suis Olivier, c'est Olivier Sauton qui parle, mais on lui dit. Moi, Olivier Sauton, c'est totalement schizo. Moi, Olivier Sauton, j'adore Guignol. Je trouve que c'est un spectacle merveilleux, il y a tous les codes du théâtre, et puis il y a le meilleur public qui existe. les enfants. C'est un public extraordinaire, parce que c'est un public qui ne peut pas mentir. Les enfants vont pas avoir la politesse de s'ennuyer. Chez les adultes, parfois, t'es à la Comédie Française, il y a d'excellents spectacles, mais pas toujours. T'as des gens qui dorment, je l'ai vu ça, il y a des gens qui pioncent pendant le spectacle, et qui, à la fin du spectacle, se lèvent pour faire une standing ovation. T'as envie de dire, non, t'as pioncé, mon pote. Raconte-moi l'acte 2, t'en es incapable. Tu peux pas faire une standing ovation parce que tu dis à la fin, c'est la Comédie Française. Si je reste assis, je passe pour le con qui a rien compris. Alors, j'ai rien compris de la pièce du Slovaque, là, mais je vais me lever pour dire bravo. Non. Non, sale, moi, les Tartuffes ne doivent pas être dans la salle. Surtout la Comédie Française. Donc Fabrice Zucchini, si tu penses comme lui, tu peux tenir toute ta journée avec le personnage en disant « je pense que sur ce mot-là, il aurait dit ça ». C'est une machine extraordinaire et ça m'a aussi aidé dans l'écriture puisque quand tu as un tel personnage à ta disposition, évidemment qu'il y a des phrases géniales qui vont jaillir. Mais ça vient pas vraiment de toi, ça vient de sa mécanique. C'est qu'au bout d'un moment, papa, et paf Il va s'énerver sur une fable, etc. Et puis il va dire, mais si tu parles faux, comment veux-tu que je t'écoute vrai?
Ah, ça y est, ouais. Elle est
pour être passionnant, il faut d'abord être passionné. Tu vois, ça, c'est parce que tu as là, à ta ressource, un personnage comme Zucchini, que des phrases comme ça vont pouvoir jaillir sans que ça fasse faux. Et donc, c'est un choix de personnage idéal pour un auteur.
Ah, moi, je suis convaincu, j'espère que les auditeurs le seront également, les lecteurs aussi du blog. Normalement, l'émission est bien enregistrée aujourd'hui, il y a eu quelques... C'est un peu capoté les fois dernières, mais pour cette 139e, ça marchera bien. Je suis très partagé, là. Je vois qu'il ne reste plus que 5 minutes, même pas. Il nous reste encore à écouter Variation sur Marie-Lou de Gainsbourg. Il nous reste un autre grand poète, peut-être, c'est ça, un grand auteur, grand compositeur français. Il nous reste aussi à écouter, peut-être, le Lacrymosa du Requiem de Mozart, un peu plus rude. Il nous reste également à écouter le générique de fin, et puis il nous reste à savoir qu'allez-vous faire prochainement. Alors je sais pas, qu'est-ce que nous faisons, Olivier Sauton? Que faire?
Oh bah, parlons quand même du futur, parce que c'est important, parce que mon futur est un peu déjà mon présent.
Il existe ou pas? Il y a des dates? Non, pas encore de dates.
Alors, le Fabrice Zucchini et moi, il va tourner un peu partout en France. Je vais tourner à Marseille, dans un nouveau théâtre qui s'appelle L'Art du Théâtre.
Mince, les cagoles, vous le ferez là-bas, ouais.
Bien sûr, qui aime bien, taquine bien. Je vais le jouer aussi à Rouen, etc. Enfin, j'ai plusieurs dates avec ce spectacle.
Vous allez arriver à une 500e, une 1000e, non?
J'ai pas compté. J'avoue que je compte pas.
Vous comptez le public? 100 000, ça va arriver?
On est que je dise pas de bêtises. En janvier 2017, on était à peu près à 65 000 spectateurs.
Donc ce qui est quand même gros pour...
C'est, pour un spectacle de théâtre, c'est absolument fantastique. Et puis il m'est arrivé un truc énorme dont je veux parler, c'est que il y a une polémique sur les réseaux sociaux qui a été déclenchée à mon encontre et qui a amalgamé j'ai un passé un peu non pas du tout obscur ni trouble, mais qui peut s'avérer être assez incompréhensible pour pas mal de gens. Par le passé, je travaillais avec Dieudonné. Et à l'époque, quand j'étais humoriste, avant de vouloir faire du seul en scène de théâtre, je faisais de l'humour. J'écrivais de l'humour très trash sur des sujets extrêmement sensibles, dont les juifs, la Shoah, mais pas que, pas du tout que, et sur tout le monde, sur moi-même d'ailleurs en premier. Il y a eu un amalgame de choses qui ont été faites sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour me présenter comme un antisémite notoire, etc., ou un ex-antisémite, etc. Je n'ai jamais, jamais, jamais été antisémite. Oui, à un moment dans mon travail, j'ai travaillé avec des artistes d'une sphère d'extrême droite, dont certains qui sont antisémites, etc., etc., etc. C'est vrai. En revanche, je me suis jamais commis idéologiquement, politiquement, intellectuellement avec ces gens-là. Ce serait trop facile de regretter aujourd'hui. Bah non, il faut assumer son passé. C'est aussi ce qui te constitue aujourd'hui. Et en fait, on a assassiné mon spectacle, ma carrière, mon élan, en tout cas, l'élan de ce spectacle, via cette polémique. Donc, en 3 jours, j'ai tout perdu. On m'a collé l'étiquette d'antisémite sur le front. J'ai perdu mon producteur, le théâtre parisien dans lequel je triomphais, j'étais quasi complet tous les soirs. Les Molières, j'étais pressenti pour les Molières, 2017, où j'avais une très bonne chance, disait-on. Donc j'ai tout perdu en 3 jours. Je ne pouvais plus travailler, on m'a enlevé toutes mes dates, qui était prévu. Je pouvais plus dans un état de droit. C'est quand même dingue. Personne ne m'a suivi juridiquement. Personne ne m'a attaqué juridiquement. Et pourtant, j'étais condamné à ne plus pouvoir exercer mon travail. Dans un état de droit, c'est quand même un petit peu bizarre. Surtout un spectacle qui promeut des valeurs totalement contraires à ce qu'on a voulu mettre sur la tronche, c'est-à-dire l'antisémitisme, toute forme de racisme. Et donc, je me suis dit, je vais écrire cette histoire-là. Le prochain spectacle, cette fois-ci, s'intitulera Olivier Sauton et moi. Et je vais raconter ce qui est arrivé. Je vais raconter l'évolution d'un homme. Je vais raconter une époque hystérique qui condamne avant de juger. Je vais raconter la folie et parfois la bêtise, mais pas toujours d'ailleurs, des réseaux sociaux. Il y a aussi de très jolies choses. Je vais raconter tout ça. Je trouve qu'on joue dans, on vit dans une époque de Far West. C'est l'époque wanted. On essaie de shooter n'importe qui. On se transforme tous en shérif 2.0. On croit œuvrer en se joignant à une meute pour lyncher quelqu'un qu'on a désigné comme mauvais. Bah, faut faire attention parce qu'historiquement, les meutes ont toujours tort. Se joindre à une meute. Et dans les meutes, on croit qu'il y a des méchants, mais tous les gens qui rejoignent la meute se prennent pour des gentils. Donc parfois, on se prend pour un gentil alors qu'on fait quelque chose de très méchant. Et celui qui est lynché, enfin, le lynchage ne devrait pas exister. Donc j'ai été lynché et lâché. Donc je vais raconter cette histoire sans du tout que ce soit une victimisation, pas du tout, parce que j'ai aussi un passé à assumer, un passé compliqué. Sans non plus que ce soit une vengeance, il n'y a aucune vengeance à avoir, je ne suis pas du tout dans un état d'esprit belliqueux. Où on m'a tendu un piège, c'est de me radicaliser, de me dire, bah vas-y, deviens vraiment haineux avec cette histoire. Il est hors de question, je ne tomberai jamais dans ce piège. Et je me suis dit, je vais raconter cette histoire. Toujours aussi via la culture, etc. La culture est un nuage, tout ce qui est politique sociétale est un marécage, truffé d'alligators, moi je préfère les anges là-haut. Donc je veux raconter ça pour d'abord reconstruire un élan qui a été totalement brisé, pour aussi rétablir une vérité et pour dire ne sanctionnons pas une étape sans envisager un parcours. C'est totalement idiot. C'est les mêmes que, sans me comparer à lui évidemment, c'est les mêmes que ceux qui voulaient assassiner Jean Valjean, quoi. Une faute un jour, faute toujours. Bah non, pas faute un jour, faute toujours. Sinon tout le monde serait enfermé. On est tous fautifs de quoi que ce soit. Même un petit truc, on est fautif. Donc, n'arrêtons de jouer au shérif. Arrêtons de jouer au FFI 2.0 qui voit des méchants partout. Avant de s'intéresser à ce que fait quelqu'un, ce serait bien aussi de s'intéresser à ce quelqu'un, qui il est, qui il a été, qui il veut devenir. Et c'est comme ça qu'on progresse.
L'écriture est-elle avancée? Oui, c'est.
Ouais, j'écris tous les jours. C'est un sujet extrêmement délicat parce que c'est.
Ah, il faut peser les mots là. Oui,
il faut peser les mots. Il faut pas que ce soit une opération de com. Il faut que ce soit un vrai spectacle sincère. Il faut que ça dépasse ta propre histoire parce que comme je suis pas connu, c'est anecdotique. On s'en fout. Il faut vraiment que ce soit. J'aurais vraiment que ce soit un spectacle. Ça va peut-être foirer parce que ça va être compliqué. Mais j'aurais vraiment que ce soit un spectacle qui parle de notre époque sans faire la leçon, sans être faire chier les gens, mais dire voilà, ce qui m'est arrivé aurait pu arriver à n'importe qui. Et les gens qui m'ont assassiné, certains sont de très bonne foi. Quand on voit mon dossier vu de l'extérieur, moi je me serais peut-être moi-même assassiné. Quand je vois mon dossier, je dis attends, c'est qui ce mec là? Il a travaillé avec Dieudonné, dans un film avec Soral, qui est un mec d'extrême droite, et Forisson, qui est un négationniste. Oh là là. Oula, il a écrit des tweets sur les juifs, oh là, extrêmement déplacés, violents, etc. Peut-être que moi-même, je me dis putain, ce mec est un salopard antisémite, il faut le rayer de la carte. Bah non, en fait, ce mec-là, c'est pas un salopard antisémite.
Est-ce qu'on pourra vous revoir à Lyon? Ce sera.
J'espère. Je remercie énormément le directeur du théâtre, Julien Poncet, qui m'a donné ma chance, qui m'a dit. Alors que tout le monde m'a déprogrammé pour Fabrice Lucchini et moi, ce qui était un spectacle très demandé, ce qui était vraiment un spectacle extrêmement demandé. Lui, il a pris son téléphone, il m'a dit, bah moi, j'assume, on se connaît pas, j'ai vu ton spectacle, je te fais totalement confiance. Ce qui est arrivé sur les réseaux sociaux est absolument ridicule, grotesque. C'est une cabale grotesque. Moi j'assume et je vais pas te programmer une semaine, je vais te programmer deux semaines et peut-être même une troisième semaine un peu plus tard parce que j'aime le spectacle et qu'on lâche pas un artiste comme ça.
Bonnes impressions pour vous hier soir pour cette première.
J'ai la chance de jouer un spectacle Fabrice Lucchini et moi parce que ça c'est une chance, hein. C'est pas de la fausse modestie de dire ça, c'est une vraie chance. un spectacle qui plaît, c'est un spectacle qui accroche. C'est un spectacle extrêmement agréable à jouer, donc on se lasse pas de le jouer, je me lasse pas malgré le fait que je le joue depuis 3 ans. Et c'est dans la carrière d'un artiste, qui plus est pas connu comme moi, c'est une chance d'avoir ce genre de spectacle. C'est un spectacle, je sais, qui me suivra toute ma vie, qui ne peut pas vieillir et devenir et être périmé. Donc c'est un vrai plaisir. Et puis en plus là, j'ai le plaisir de retrouver la scène, parce que moi sans scène je suis totalement déséquilibré, je suis un infirme total dans la vie pratique, je suis un handicapé, je comprends rien du tout à ce qui se passe. Et moi j'ai besoin de la scène. C'est là où je me sens utile. Et je trouve qu'avec ce qui m'est arrivé, c'était pas très malin de me priver de la scène et de priver le théâtre d'un spectacle qui essaie en tout cas d'être bienveillant, constructif, constructeur, généreux, sous prétexte que par le passé, j'ai pu faire des erreurs. Peut-être que j'ai fait des erreurs, certainement. Mais qui n'en fait pas ? Une erreur serait de ne pas tirer la leçon d'une erreur. Moi, j'ai tiré tout seul la leçon d'une erreur. J'en suis sorti tout seul de ça. Et me remettre, alors que j'étais sorti de la merde, et me remettre le nez dedans, je trouve pas ça constructif, ni pour eux, ni pour moi.
Ce que vous nous disiez hier, je crois, ça s'est produit un peu après coup. Ça, c'était dans les années début 2010.
Oui,
ça,
c'était 2011, principalement 2011-2012. Et puis voilà, les gens évoluent, quoi. Heureusement, mais tout évolue. La vie, le principe de la vie, c'est l'évolution. La terre évolue, le ciel évolue, le caractère évolue, l'âge évolue, la pensée évolue. Donc sanctionner quelqu'un sur quelque chose d'arrêté et de passé, c'est idiot, puisque il faut voir l'évolution. Donc ce sera un spectacle délicat. Je sais pas si ça va intéresser comme spectacle.
Ah, il faudra absolument revenir, parce qu'au moins,
eh ben, je reviendrai.
Comme ça me permet de vous interrompre. 15h est passée, mais Pascal n'est pas là. Donc moi je pensais que le blues des canuts aurait lieu. Il me semble que ça a repris la semaine dernière. Auditeur, je pense que Pascal nous permettra de lui avoir volé ces quelques minutes. Non, il n'y a pas de Pascal encore dans la maison, dans la place. Faites du bruit, non, il n'y a pas de fête du bruit. Donc Pascal n'est pas présent, peut-être le blues des canuts aura lieu la semaine dernière. Nous on va peut-être s'interrompre maintenant, puisque on prend rendez-vous, voilà. La date n'est pas fixée, mais
rendez-vous est donné pour le spectacle Olivier Sauton et moi.
Le
titre est déjà arrêté, c'est Olivier Sauton et moi. Sinon, un clin d'œil au spectacle Fabrice Lucchini et moi.
Bon.
Et c'est pas du tout par narcissisme ou je ne sais quoi. En l'occurrence, Olivier Sauton aurait pu être tout le monde.
Alors normalement, on finit sur le générique, mais là, je pense qu'on n'aura même pas le temps d'écouter le générique. Nous écoutons, vous reconnaissez ?
Ça, c'est Serge Gainsbourg, c'est immense, parce que comme Brassens, très différent, mais c'est un poète, il maîtrise la langue française et il maîtrise la musique, voilà, il y a une initiation musique classique derrière qui est évidente. Et c'est quelqu'un qui m'accompagne beaucoup, Serge Gainsbourg, que j'aime beaucoup.
Alors, bousculons nos habitudes. Pas de générique de fin d'émission. C'est dans Gainsbourg et on va l'écouter. Alors, je vais m'interrompre, je vais en rester là. Je crois qu'on a tout dit. Fabrice Lucchini et moi, seul en scène de et avec Olivier Sauton, du 5, c'était hier, jusqu'au non pas le 9 septembre. Il y a des petits flyers mensongers qui indiquent le 9 septembre. Non, c'est encore une semaine de plus. C'est jusqu'au 15 septembre à 21h30 à la Comédie Odéon, au 6 de la rue Grollet, dans le 2e arrondissement. Je donne le numéro de téléphone. Allez, je donne le numéro de téléphone, le 04 68. 18 82 86 30, c'est bien 86, c'est exact, 04 78 82 86 30 pour les réservations. Sinon, internet www.comedieodeon.com. Les renseignements concernant cette émission, vous les retrouvez sur le blog de Spectaculaire, comme tous les mercredis. En revanche, peut-être relâche, je tenais à faire une émission de reprise aujourd'hui pour vous avoir, Fabrice Lucchini, Olivier Sauton. L'occasion était trop belle. Peut-être relâche les semaines à venir, on reprendra doucement avec Gérald au mois d'octobre. À voir. Auditeurs, restez à l'écoute. De toute façon, restez à l'écoute de manière générale des programmes de Radio Canu. À venir, on n'arrête pas le prog, 17h, 18h, le méga combi et 19h, le canu info. Bon, j'en ai trop dit, c'est Gainsbourg qui a la parole et on se retrouve une prochaine fois. Salut tout le monde, merci Olivier, au revoir.
Au revoir.
Et au revoir notre public.
Merci beaucoup.
De Baby Doll, et je pense à Lewis Carole. en nous lançant à corps de cartes.